L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à tous, bon week-end. Bien sûr, ça c'est le plus important, profitez-en bien de ce week-end. Un week-end, vous le savez, qui est consacré chaque samedi sur BFM Business entre 16h et 18h à toute l'actualité des nouvelles technologies. Et c'est l'atelier numérique. Ravi de vous retrouver avec évidemment toute l'équipe de l'atelier. Du côté des USA, nous avons Nathalie Doré qui est avec nous. Et puis dans ce studio, Aurore Géraud, Lila Megraoua, mademoiselle, bonjour.
Bonjour.
Tout à l'heure, c'est bonjour. Antoine Cyr. Bonjour Nathalie. Tout à l'heure, nous retrouverons Antoine Cyr pour évidemment sa sélection de gadgets et puis le crash test. La bonne nouvelle, c'est que Jean de Chambure sera là, notre habitant de Shanghai. Pour évidemment sa vue d'Asie, ce sera dans quelques minutes. On retrouvera aussi notre Silicon Carnet tout à l'heure avec Nathalie, sélection de gadgets d'Antoine, notre focus startup. On découvrira, tiens, un système malin pour classer ses mails de manière chronologique, en fait. Ça s'appelle Timio, on aura l'un des cofondateurs de Timio tout à l'heure avec nous. On parlera aussi du Digital Labor avec Lila Megraoua et notre invité, l'internaute, ce travailleur qui s'ignore. Ça veut dire quoi, Lila? Ça veut dire que quand on surfe, on travaille?
En fait, on réalise quantité de micro-tâches sans trop le savoir.
Eh bien, dites-moi. On verra ça tout à l'heure avec notre invité. La stratégie digitale de Keolis pour notre Webstrat. Et puis, on évoquera le futur des objets connectés. Eh oui, fini les bracelets, fini tous ces appareils qui nous accaparent au quotidien. En fait, ils seront complètement transparents. Ils vont devenir invisibles et vont radicalement changer notre vie. On en parlera tout à l'heure avec notre invité. Notre World Tour, on ira au Chili, notre French Tech Tour, et puis direction aussi la rédaction de Zeronet.com tout à l'heure pour jeter un œil sur les gros titres d'actualité de cette semaine avec, vous le savez, la sortie des nouveaux iPhones. Et on terminera avec le crash test, bien entendu. Mais pour débuter, l'info vue par toute l'équipe de l'atelier. Et on va commencer par Lila Megraoua. Lila, alors.
Oui, je vais vous parler d'une imprimante 3D absolument géante.
Mais géante de part parce qu'elle est géniale ou parce qu'elle est vraiment grande?
Un peu des deux.
Un peu des deux.
Taille 12 mètres.
Oh.
Utilité.
Ah oui, je peux pas la mettre à côté de mon bureau.
Non, c'est pas possible. Je vous le déconseille. En revanche, on pourrait imaginer la mettre juste à côté du bâtiment de Next Radio TV.
D'accord.
Pourquoi pas? Alors en fait, elle permet d'imprimer à partir de boue et d'argile. En fait, une entreprise italienne qui s'appelle Wasp, qui a dévoilé ce prototype Big Delta.
Alors donc, attendez, on imprime de la boue, c'est ça?
Ouais, à partir de boue.
À partir de boue
et d'argile.
D'accord.
Le but, c'est de réaliser des bâtiments, de vraies maisons, les imprimer en 3D. Alors cette imprimante est destinée aux zones principalement victimes de catastrophes naturelles. Mmh. Et l'idée, c'est de construire le plus rapidement possible des logements à partir de matériaux écologiques et à bas coût, surtout.
D'accord. Hop. Bon, après, il faut arriver à déplacer ce truc de 12 mètres.
Pas faux. Oui, fatalement.
Oui, parce que c'est quand même assez...
C'est assez conséquent.
Bon, très bien. À suivre. Start-up italienne.
Un autre chiffre, quand on sait que d'ici 2030, c'est près de 3 milliards de gens qui auront besoin d'un logement, ça peut être une solution
intéressante.
Possible.
Direction maintenant San Francisco avec Nathalie Doré. Nathalie.
Oui, alors moi je voulais vous parler d'une start-up, pas italienne bien sûr, mais californienne, qui amène une solution intéressante à un sujet qui passionne alors autant les Américains que les Français, c'est la décoration d'intérieur. Alors il s'agit de la start-up House, qui s'écrit H-O-U-2-Z et non pas S-E à la fin, comme maison en anglais. Et House apporte tous les outils pour réussir l'embellissement de sa maison. Alors d'ailleurs, l'histoire personnelle des fondateurs a été le déclencheur du projet. Le couple venait d'acheter une maison, ils avaient besoin de la rénover et ils n'arrivaient pas à trouver les bonnes idées, les bons artisans, les bons conseils. Bref, ne trouvant rien de pertinent, ce couple a donc décidé de créer une place de marché online où chaque individu peut trouver de l'inspiration et, si plus affinité, son corps de métier, architecte, décorateur. Alors, ce n'est pas une place de marché qui met juste en relation les gens. On rentre par des photos un peu à la Pinterest, des réalisations passées des architectes et décorateurs. Donc, ça vous donne vraiment envie de voir ce qu'ils font. Et ainsi, on peut aimer un intérieur et vouloir échanger avec l'architecte qui a travaillé dessus, lui poser des questions. Tout cela, la plateforme le permet. Et elle s'arrête pas là. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer un architecte d'intérieur, ce qui est quand même le cas de beaucoup de gens, vous pouvez vous inspirer du travail de l'architecte qui est donc visible sur le site et acheter les produits qu'il a sélectionnés dans ses projets. Car House.com est aussi une plateforme de e-commerce. Vous pouvez sélectionner certains produits présents sur les photos et être directement redirigé vers le site de e-commerce qui vend l'objet en question. Bref, c'est un site et une appli mobile qui cartonnent. Pas que aux États-Unis, 35 millions de visiteurs uniques chaque mois, 800 000 professionnels sont présents sur la plateforme et House est désormais présent dans 10 pays, dont la France, alors avec des équipes situées à Londres. Mais vous pouvez aller sur House.com et découvrir tous ces services. Ils sont vraiment en train de se faire une belle place dans cette industrie du design et de la déco qui cartonne.
House donc, H-O-U-2-Z. Parfait.
Exactement.
Merci Nathalie. Aurore Géraud.
Oui, moi je vais parler de quelque chose qui est pas du tout fun. Je vais vous parler d'un pilulier.
Ah, le pilulier.
Pour prévenir les overdoses, parce qu'aux États-Unis actuellement, c'est 44 000 overdoses fatales par an, pas nécessairement liées à un usage de la drogue ou quoi que ce soit, mais aussi liées au fait d'ingérer des médicaments de quelqu'un d'autre, tout simplement. De se tromper et de se tromper dans, voilà, par erreur ou de se tromper dans le dosage. Et donc, ce pilulier marche avec l'empreinte digitale et délivre, en fait, un médicament, une dose de ce médicament et,
adéquate,
on va dire. Et en fait, peut être programmé pour le faire à certaines heures particulières pour éviter l'overdose.
Ah oui.
C'est pas super joyeux, je suis assez d'accord.
D'accord.
Ça peut être une pilule, par exemple, de contraception. Ce système peut être.
Et après, il est incassable. Donc, ça veut dire que les personnes qui pourraient être un petit peu addictes n'auraient pas à le casser
ils
pour pouvoir.
Le marteau,
voilà,
taper
tout à
dessus,
fait.
Etc.,
il y a une
pas.
Vidéo en ligne où ils essayent même de le passer avec différents instruments, pas de torture, mais de marteau, ce genre de choses, et ça ne se casse pas.
Eh bien, dites-moi, c'est le pilulier blindé.
Incroyable.
C'est un peu ça, hein, finalement.
Tout à fait.
Très bien, Lila.
Pilulier, autant qu'on va rester à la fois dans le domaine médical et revenir au domaine de l'impression 3D. C'est tout simplement le premier médicament imprimé en 3D qui vient d'être approuvé aux États-Unis.
Waouh, ça c'est quand même incroyable.
Ça c'est absolument hallucinant. C'est l'institution phare médicale aux États-Unis, le FDA, Food and Drug Administration, qui vient d'approuver ce fameux médicament qui s'appelle Spritam et qui permet de lutter contre les convulsions provoquées par les crises d'épilepsie.
Ah oui.
Donc le principe, ce médicament grâce à l'impression 3D, ce médicament en fait il est disposé, enfin cette pastille est composée plutôt d'une dizaine, plusieurs couches qui se dissolvent en moins de 30 secondes. Donc en fait, c'est grâce à l'impression 3D, ça permet à la fois de produire ce type de pastille assez rapidement et surtout ça permet de réaliser un peu plus facilement cette techno qui permet de dissoudre plus facilement. Je sais pas si
c'est
clair. Mais ce serait tout particulièrement
c'est ce qu'on appelle les excipients
adapté.
En fait. C'est ce qu'il y a autour des médicaments et qui fait que on va bien ingérer en fait le contenu du médicament.
D'accord.
Voilà. Parfait.
Mais est-ce que l'imprimante fait 12 mètres?
Oui. Et les médicaments ne sont pas à base de boue, quand même.
Non.
Non. Enfin, cela dit, la boue a des vertus médicinales. Vous savez, on fait des bains de boue, par exemple.
L'argile aussi.
Mm-mm. Bon. Lila, je crois qu'il y a encore une petite news. Un petit quelque chose.
Assez rapidement, c'est tout simplement la bataille entre Berlin et Londres. Berlin, Cisco. Et la ville de Londres, où en fait ils se tapent un peu dessus pour dire non mais en fait je suis la ville la plus intelligente. Donc en fait, c'est le maire de Berlin.
Ah oui,
qui
c'est la battle.
De la Smart City. C'est tout simplement le maire de Berlin, Michael Müller, qui a déclaré la semaine dernière lors d'une conférence, nous avons les gens les plus créatifs du monde. C'est un avantage qu'il ne faut pas sous-estimer. Nous avons de la place.
D'accord.
Nous pouvons et chose intéressante, c'est surtout qu'ils sont soutenus par Cisco, on peut dire l'une des sociétés parraines du concept de la Smart City avec IBM. Vous avez dans chaque ville, quelque part, on pourrait parler de vision de la Smart City selon Cisco, selon IBM, selon qui d'autre, je ne sais plus.
Mais c'est déjà pas mal. Bon.
Donc la bataille, miroir, dis-moi.
Et entre Londres et Berlin,
je
sais qui vous choisissez en plus.
Bah, Berlin de cœur, je dirais que c'est la ville la plus créative. Après, sur la Smart City, je resterai quand même, je préfère Londres.
Bravo, voilà. Quelle neutralité cette ville, c'est formidable. Alors évidemment, vous le savez, chaque samedi, il est avec nous, c'est Jean de Chambure. Jean de Chambure qui est en Chine, à Shanghai, qui est shanghaïen depuis quelques semaines maintenant. Bonjour Jean.
Bonjour François.
C'est comme ça qu'on dit, hein, shanghaïen, hein Jean.
Shanghaïen, shanghaïenne,
voilà.
Exactement.
Shanghaïen, shanghaïenne, très bien, parfait. Alors Jean, la semaine dernière, on poursuit notre petit tour de l'actualité high-tech et de toutes ces entreprises high-tech en Chine. Alors, aux États-Unis, en Europe, on connaît les licornes, mais en Chine, il y a des mutants.
Ben oui, François, il y a des mutants. Alors les licornes, bon, c'est vraiment, les Airbnb, les Snapchat, les Uber, ceux qui sont en train de conquérir le monde avec une grande idée, un grand service.
Oui, qui sont valorisés à plus d'un milliard de dollars, c'est ça, le terme licorne.
Un milliard de dollars, absolument. Donc la grande idée, peut-être la pointe qui ne cesse de grandir au front de la licorne, eh bien, en Chine, c'est plutôt des mutants. C'est plutôt des mutants, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des géants qui ne cessent de se développer, de se diversifier. Je vous avais parlé il y a quelques temps de Alibaba Tencent, Alibaba qui commence avec une plateforme un peu à la eBay de vente entre particuliers, puis qui arrive maintenant à faire la banque en ligne, qui fait des systèmes de paiement, qui fait bien sûr du B2C aussi. Tencent qui commence avec des jeux vidéo, qui fait après des messageries, qui fait aussi du O2O, c'est-à-dire du offline to online, avec des sites internet qui ne cessent de ramener un peu tous les restaurateurs vers l'internet pour faire de la livraison au bureau. Et bien cette semaine, la grande actu dans ce domaine-là, c'est Xiaomi. Vous savez, Xiaomi, c'est ce grand fabricant, le premier fabricant chinois de smartphones, troisième dans le monde, derrière Apple et Samsung. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en tester un, mais c'est vraiment...
Très bon téléphone.
C'est chouette, hein. Ouais, exactement. Très bon téléphone. Donc ils ont lancé, là, vous l'avez peut-être vu, le dernier... NI 4C, donc qui est à moins de $200, donc ça c'est pour l'actu un peu de la semaine. En gros, leur force c'est quoi ? C'est qu'ils ont une très bonne com, ils ont une com qui est basée vraiment sur les réseaux sociaux, ils écoutent à fond ce que proposent les internautes pour arriver déjà avec des systèmes d'exploitation assez personnalisés, parce que très souples, en mode open source, qu'ils intègrent dans leur téléphone. Alors parfois, comme il y a beaucoup de modèles et qu'il y a beaucoup de systèmes, parfois c'est un petit peu laborieux en termes de mise à jour, mais enfin c'est quand même une façon de faire très valide. Et puis bien sûr, ils ont Shenzhen, qui est l'usine du monde, un peu plus les terminaux mobiles, qui est juste à côté, donc leur permet de produire en masse très très rapidement. Ils voient déjà d'ailleurs un peu l'essoufflement, en tout cas leur ralentissement du marché des smartphones, puisque pratiquement tout le monde est équipé et d'ores et déjà. Donc ils vont se diversifier, ils vont muter, ils vont aller dans les objets connectés, les bracelets par exemple, ils vont lancer un laptop aussi en 2016, ils vont annoncer, ils sont aussi un petit peu dans l'internet financier avec un site qui s'appelle Tiger Blood, donc ils ont investi 500 millions dedans, et surtout le coup d'éclat de cette semaine, François, c'est l'entrée dans le marché des telcos, vraiment dans le marché des telcos, c'est-à-dire que c'est un fabricant qui devient telco, ça c'est quand même... assez culotté,
Osé.
Donc ils louent à China Telecom, à China leur réseau. En gros, ils proposent une offre qui est vraiment très très chouette, en prépayé. Donc pour deux cents, vous avez une minute de voix, vous avez un méga de data.
Ouais.
Et pour $10, vous avez carrément 3 gigas de données. Vous voyez, François, c'est un beau package. Et alors bien sûr, c'est proposé en association, en bundle, comme on dit, sur leur smartphone, mais sur tous les autres smartphones, parce que la grande particularité des smartphones en Chine, c'est qu'ils sont presque tous B+.
Oui.
Donc voilà, c'est le grand coup d'épée là, industriel de la semaine dans la Chine digitale. Je trouve ça très très chouette et on parle de mutants, donc c'est le fondateur Lei Jun, qui après se prendre un peu pour Steve Jobs avec ses kilos, qui est en train de se prendre pour Xavier Niel, enfin tout va bien, dans la Chine digitale ça bouge.
Parfait, merci beaucoup Jean, voilà Jean qui nous propose, qui nous dessine sa petite carte postale vue de Shanghai, sous le prisme évidemment des nouvelles techno, chaque samedi dans cet atelier numérique. Merci beaucoup Jean de Chambure, on revient dans un instant pour la suite de cet atelier sur BFM Business avec le Silicon Carnet et le cybergadget d'Antoine. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Comme chaque samedi, les gadgets d'Antoine dans un instant. Mais auparavant, direction, eh bien, la Silicon Valley. San Francisco, plus précisément. Avec Nathalie Doré qui est avec nous. C'est notre Silicon Carnet, Nathalie. Et aujourd'hui, on va parler de la mobilité de demain. Sujet passionnant, bien sûr.
On évoquait d'ailleurs le sujet déjà petit peu la semaine dernière avec Elon Musk et son projet d'Hyperloop. Vous savez, ces capsules qui vont propulser les habitants de San Francisco vers Los Angeles en moins de 30 minutes. Eh bien, cette semaine, on va voir qu'Elon Musk n'est pas le seul à travailler sur ce sujet du futur du transport. Alors, depuis environ 5 ans, en fait, la Silicon Valley est devenue l'épicentre mondial où s'invente la mobilité de demain. Start-up, industriels, centres de recherche, tous ces différents acteurs s'activent à repenser la manière dont nous allons nous déplacer dans les villes. Et, mon cher François, puisque la France s'apprête à accueillir en fin d'année le COP21, moi j'aimerais bien vous parler cette fois d'enjeux d'éco-mobilité. Que ce soit éco-citoyenneté, alternatives au transport, véhicules partagés, les domaines d'application sont multiples et de nombreuses startups ici travaillent sur le sujet.
En fait, ce sujet d'éco-mobilité est d'ailleurs un sujet qui dépasse les USA. C'est un sujet mondial, Nathalie.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, l'enjeu est de taille. En fait, en 2050, on sera beaucoup plus nombreux sur Terre, 9,6 milliards contre 7,35 milliards aujourd'hui. Et en plus, on vivra plus dans les villes. Alors, cet accroissement de population mondiale va se vérifier aussi ici aux États-Unis. D'ailleurs, plusieurs prédictions disent que d'ici 2045, il y aura 70 millions d'habitants en plus aux USA et beaucoup d'entre eux seront en plus dans les villes. Alors, vous l'aurez compris, la mobilité urbaine est un enjeu majeur ici aux États-Unis comme dans beaucoup d'autres pays.
Oui, mais Nathalie, il existe déjà pléthore de solutions pour se déplacer. Métro, bus, vélo, pour être éco-responsable dans nos déplacements.
Oui, c'est vrai. Alors, toutes ces différentes solutions de déplacement existent, mais certaines sont quand même pas toujours très agréables, ce qui laisse la place à l'innovation. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi de vous parler de deux startups californiennes très innovantes. La première, c'est Chariot, qu'on a rencontré d'ailleurs ici à Atelier, qui offre une alternative vraiment convaincante. Alors, je m'explique. Comment ça marche? Tout commence par une plateforme de crowdsourcing sur laquelle vous renseignez votre trajet domicile-bureau. Quand un nombre suffisant de personnes déclare un trajet similaire, la startup crée une ligne de transport et il y a donc des minibus de 15 places environ qui circulent sur ce trajet. Ouais, c'est vraiment à la demande. Et ça marche. La startup a déjà près d'une dizaine de lignes ouvertes dans San Francisco. Et en plus, alors comme beaucoup de startups, ils améliorent régulièrement leur service. Donc là, depuis cette semaine, les passagers peuvent par exemple voir où est leur bus en temps réel, à la manière de Uber. Et en plus, le trajet n'est pas très cher. Il coûte en moyenne 4 $, ce qui est un peu plus cher que les transports publics. Mais une partie de la population préfère voyager dans ce type de bus confortable, avec Wi-Fi, sans correspondance, donc plus rapide et moins fatigant.
Alors,
vous allez me dire, ce concept pose toutefois la question de la notion de service public, puisque là, il remplace un peu le service public. Mais c'est quand même challenging pour les acteurs traditionnels. Et pour l'instant, Chariot, c'est un bon départ. Ils ont levé 3 millions de dollars et ils se concentrent pour l'instant sur San Francisco.
Nathalie, deuxième start-up que vous vouliez nous présenter?
Alors là, il s'agit du Airbnb de l'automobile. C'est en effet Relayride. C'est aussi une start-up de San Francisco. Alors Relayride propose une plateforme où les propriétaires de voitures peuvent mettre en location pour une ou plusieurs journées leur véhicule. Alors c'est très simple. Le prix est fixé par le propriétaire ou par l'algorithme de la start-up. L'intérêt pour le conducteur final est de louer une voiture en moyenne 35% moins chère que s'il le faisait via une agence de location classique. Et Relayride, de son côté, lui, prend 25% sur chaque transaction. Ce qui est intéressant, et en fait, il limite aussi le risque de faire des intermédiaires, parce que vous pouvez me dire, après, le locataire et le propriétaire peuvent se parler directement, c'est que Relayride apporte aussi du service, puisqu'en fait, ils apportent l'assurance. Ils couvrent les conducteurs contre les risques d'accident. Alors, là encore, le succès est au rendez-vous. RailRise est désormais disponible dans plus de 2000 villes aux États-Unis et 300 aéroports. Alors, moi, je dis, préparez-vous à les voir débarquer un jour en France assez rapidement.
Mais je crois qu'il existe déjà des concepts similaires en France, comme Drivey, par exemple, Nathalie, dont on a déjà parlé dans l'atelier. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Merci beaucoup.
C'est assez proche, en effet.
Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup Nathalie depuis donc San Francisco pour évidemment notre petit Silicon Carnet. Et on enchaîne tout de suite à la sélection de cyber gadgets d'Antoine. Antoine, alors, qu'est-ce que vous avez en rayon pour nous cette semaine côté gadgets ?
Des objets intelligents.
Ah, mais ça alors, change.
Oui.
Non, je parle pas de vous, je parle des objets Antoine, attention.
Mais même mes objets, mes petits objets, j'aime bien qu'on les chouchoute. Surtout que là, je vais vous parler de l'appareil photo qui ne laisse prendre que des photos originales. Il faut bien quand même le dire, depuis qu'il n'y a plus de pellicules, on n'a jamais autant gâché de pellicules. avec des photos qui sont pas toujours très originales. Enfin, le nombre de photos du pont Alexandre III, de la Tour Eiffel, du Sacré-Cœur, qui présentent pas d'intérêt particulier.
Oui, et surtout pas architecturaux.
Qui font une concurrence plus ou moins loyale aux cartes postales et quand même ces photos.
C'est un truc qui existait avant.
Alors là, les cartes postales, ça fait toujours plaisir.
Oui.
Moi, je sais que, par exemple, vous dites ça, mais vous pensez toujours à m'en envoyer une de vos vacances.
Oui, c'est vrai.
Que vous prenez d'ailleurs toujours invariablement au même endroit.
Oui, j'adore. Donc,
avoir tous les ans la même carte postale.
Ça vous rassure.
Car bien sûr, vous ne vous souvenez pas celle que vous m'avez envoyée l'année d'avant. Donc, vous me renvoyez toujours la même.
Et ça vous rassure.
Ce n'est pas grave. Donc, voilà. Là, il s'agit de l'invention d'un designer allemand, Philipp Schmidt, qui a créé la Camera Restricta. Camera Restricta, donc ça veut dire chambre restreinte, qui est l'appareil photo qui n'autorise que des photos originales. Alors, évidemment, c'est encore un prototype. Cet appareil peut héberger un smartphone que vous insérez dans la machine. Il utilise les données GPS de Flickr et de Panoramio pour définir la popularité d'un lieu. Et si plus de 35 photos, alors le Sacré-Cœur, il a qu'à bien se tenir, si plus de 35 photos du lieu ont déjà été prises.
On peut pas en prendre une.
À environ 30 mètres près. Alors, d'un seul coup, l'obturateur de l'appareil se referme et bloque le
Quelle
viseur.
Horreur!
Voilà. Alors, c'est ça qui est extraordinaire. Alors, si vous voyez passer Beyoncé devant le Sacré-Cœur et que
vous pouvez pas la prendre en photo.
Parce que le lieu a déjà été photographié.
D'accord. Et puis Beyoncé sans doute était aussi photographiée plus d'une trentaine de fois.
Voilà. Bon. Donc, vous voyez bien que l'idée est intelligente en soi, mais qu'elle a quand même un certain nombre de limites.
Tout à fait.
Et ça deviendra intéressant le jour où elle pourra prendre en compte davantage de paramètres, et notamment l'identité des personnes qui sont prises en photo. Vous en voulez une autre ?
Ah oui, moi j'aimerais bien que vous me parliez de cette cape d'invisibilité que vous avez en rayon. Là.
Ah ben voilà, vous savez tout. Donc
je sais tout sur vous.
Oui.
Pas tout, mais une bonne partie.
Mais la cape d'invisibilité ne me permet pas de tout cacher.
C'est ça.
Donc c'est une équipe de chercheurs de l'Université de Californie qui a réalisé cette prouesse qui consiste à faire disparaître à la vue, grâce à un revêtement très fin, un objet bossu de 40 micromètres de large. Donc évidemment, vous me direz que l'objet est si petit qu'il était déjà invisible à l'œil nu, parce qu'un micromètre, je sais pas exactement combien ça fait, mais ça fait très peu.
C'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. Et donc c'est quand même un exploit très prometteur d'un point de vue technique. La dernière tentative remontait à 2006 et n'avait pas été concluante. Donc vous voyez quand même, il a fallu 9 ans pour arriver à progresser dans l'invisibilité. C'est une cape extrêmement mince qui épouse parfaitement les formes de l'objet à cacher. Sur sa surface se trouvent des perles en or taillées en forme de rectangle. Donc vous voyez que ça explique pourquoi on n'a pas construit tout de suite la cape d'invisibilité du sergent Garcia, mais plutôt celle d'un objet bossu de 40 micromètres de large. C'est la lumière qui arrive sur l'objet et qui rebondit comme sur une surface plane. Enfin, ça joue évidemment avec la lumière, une cape d'invisibilité. sensibilité.
Oui, voilà. c'est une espèce de, comment dirais-je, tour de passe-passe
de
visuel.
De réfraction,
voilà. Voilà, c'est ça. Étonnant, hein, à tester.
Absolument.
Merci Antoine, on revient dans un instant. Notre focus start-up et notre enquête de l'atelier. Et puis juste après, en toute fin d'émission, tout à l'heure, le crash test d'Antoine, bien sûr.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. On va parler des objets connectés physiques qui sont morts. On va parler d'invisibilité des objets connectés, les amis, tout à l'heure. Ah oui, ça fait un peu peur. Bah, ça sera notre passion selon Sanette. On retrouvera aussi notre World Tour tout à l'heure et puis on ira du côté de la rédaction de zeronet.com comme chaque samedi. Mais dans l'immédiat et avant de retrouver notre enquête de l'atelier avec Aurore Géraud qui est à mes côtés,
oui,
nous allons découvrir pour notre focus startup, eh bien, un nouveau service qui est censé révolutionner la manière dont on gère nos mails, la manière dont on les reçoit.
La productivité.
Combien vous recevez de mails par jour?
Beaucoup trop.
Voilà, on est tous un petit peu dans ce domaine-là. Et pour en parler et pour découvrir Timio, nous avons avec nous Fabrice Dumont. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Alors vous êtes l'un des cofondateurs de ce service, donc qui s'appelle Timio. Vous êtes basé aux États-Unis, à Los Angeles.
Ça fait.
Et donc alors, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, on reçoit énormément de mails. Hein. Aujourd'hui, le mail.
En moyenne, un collaborateur reçoit 130 mails par jour.
Voilà. Et vous nous disiez tout à l'heure, lorsqu'on préparait ce rendez-vous, que seuls 30% des mails sont importants.
Oui.
C'est ça?
Tout à fait.
Et alors vous voulez mettre une, comment dirais-je, une chronologie dans les mails, une timeline dans les mails que l'on reçoit. Expliquez-nous.
En fait, le principe de l'email aujourd'hui fonctionne sur la date à laquelle vous recevez l'email. Et une fois que vous avez reçu cet email, il n'est pas gérable autrement que par cette date.
Oui, il s'empile.
Exactement. Voilà. Donc nous, ce qu'on a instauré, c'est vraiment la dimension du temps dans le protocole de l'email, de manière à pouvoir gérer les emails importants dans une notion de vue agenda.
Exemple, Aurore m'envoie un mail pour préparer cette émission. Voilà, donc c'est très important.
Urgent.
Pour moi.
Oui.
Donc comment je vais donner de la priorité au mail d'Aurore, par exemple?
Avec Timio?
Oui. Bien
alors
sûr.
En fait,
évidemment.
Si vous avez un email important à envoyer, vous allez effectivement demander à ce que l'email soit lu aujourd'hui.
Oui.
Pour
d'accord.
Que. Et donc avant même d'avoir à ouvrir l'email, vous savez que par exemple, Aurore attend une réponse pour aujourd'hui. A contrario, un autre email pour un autre sujet.
Oui, qui pourrait être par exemple pour l'émission de la semaine prochaine, donc qui n'est pas urgent.
Exactement. Là, il sera avec une pastille verte et vous saurez effectivement que la réponse est attendue pour la semaine prochaine. Ce qui vous évite d'avoir à l'ouvrir tout de suite, connaître le contexte et après vous le marquer comme non lu pour être sûr de ne pas l'oublier.
D'accord, donc je vais recevoir un mail et puis je vais pouvoir dire, ben voilà, ce mail je le classe pour que il revienne en fait dans ma timeline de mail.
Exactement.
À un moment précis.
Voilà, le jour J, vous l'avez en today. Voilà. Si je prends l'exemple du billet d'avion, hein, qui est classique, vous recevez un billet d'avion par votre compagnie aérienne pour un vol qui a lieu dans 15 jours, vous le mettez à la date du vol et le jour J est dans l'environnement aujourd'hui. Et vous le retrouvez très facilement sans avoir à le rechercher.
D'accord. Mais est-ce que c'est pas trop fastidieux le fait d'à chaque fois de recevoir un mail, de se poser la question de savoir si bon, celui-ci, il faut que je le mette dans ce système-là ou pas?
C'est justement le chiffre des 30% que vous citiez au début de l'émission. En réalité, il y a 30% des emails qui sont réellement importants. Le problème, c'est qu'ils sont noyés dans cette masse. Et on perd beaucoup de temps à retrouver les emails importants dans cette masse. Donc là, l'intérêt, c'est à partir du moment où je gère mes 30% d'emails importants, je les retrouve très facilement. Donc j'ai un gain de temps par la suite pour retrouver l'email qui est vraiment essentiel pour moi.
Et Timio, donc, c'est un service, donc c'est une appli mobile hein, pour
oui,
l'instant.
Sur iOS pour l'instant.
D'accord, donc sur iOS on peut l'installer.
Exactement.
C'est compliqué, donc après il faut quoi, rentrer ses logins, son login mot de passe de mail.
Login mot de passe, on ne gère aucun email, donc il n'y a pas de stockage du contenu.
D'accord.
On gère simplement la dimension du temps pour vous.
Et que j'ai n'importe quel genre d'email en fait, de n'importe
absolument.
Quel opérateur,
absolument.
Ça fonctionne.
Absolument.
D'accord. C'est gratuit comme application?
Oui, on va démarrer en mode gratuit et on aura une version entreprise par la suite en mode premium.
D'accord. Et donc l'histoire de Timio, elle est aux États-Unis, c'est ça?
Elle est à Los Angeles.
Ouais. Voilà,
j'ai décidé de lancer cette aventure directement dans la cour des grands. Voilà, tous les acteurs de l'email sont américains. Et si vous voulez grandir, il faut être au contact des meilleurs. Voilà, ça vous pousse à aller plus loin. Et puis il y a en Californie une effervescence qui est très stimulante. Donc j'ai choisi effectivement de le démarrer directement là-bas et je suis parti avec femme et enfant.
D'accord. Et donc ça apporte aussi une dimension internationale à votre service.
Absolument.
Qui du coup, voilà, peut avoir un sens un peu partout dans le monde.
Voilà, on est d'ores et déjà disponible dans le monde entier.
Et pourquoi pas la Silicon Valley? Bon, cela dit, Los Angeles, vous n'êtes pas très loin. Hein,
mais... Bah, il y a le phénomène Silicon Beach. Hein,
ouais.
Donc le fait que Los Angeles devient une vraie place du numérique.
C'est vrai.
C'est vrai, on le constate vraiment tous les jours. Ça se voit, ça se sent. Et donc c'était de ce fait-là un bon choix. Et puis l'autre raison, c'est que mon confondeur est depuis longtemps installé à Los Angeles, et donc ça permettait d'avoir une base de départ déjà bien implantée.
Timio, ça s'écrit donc T-I-M-Y-O,
qui veut dire Time is my own. Et le temps est votre plus belle des valeurs.
Très bien, voilà. Pour éviter le cauchemar des dizaines de mails qu'on reçoit par jour et pour bien les trier, eh bien, testez, hein, si vous avez un appareil iOS. Timio, donc. Merci beaucoup, Fabrice.
Merci.
Et bon vent,
merci.
Donc, à Timio. Voilà. Merci. On peut d'ores et déjà télécharger, qui est disponible, hein.
Allez, on est encore en bêta, mais dans très peu de temps sur l'Apple Store.
Voilà. Donc, on va suivre ça de près. Voilà. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà. Et après Timio, place maintenant à notre enquête de l'atelier avec Lila Megrawa et notre invité. On va parler de l'internaute, ce travailleur qui s'ignore le digital labor. Labor. Ouais, c'est mieux.
Labor.
Oui.
Alors, surfer, internaute, on vous exploite.
Oui.
On vous spolie.
Ne vous laissez pas faire. C'est ça?
Tout à fait. D'accord. Surfer, chatter, aller de lien en lien n'est pas qu'un loisir. C'est aussi du travail. Alors, en fait, l'internaute serait un travailleur qui s'ignore, comme vous disiez, François. Et c'est aussi, surtout, la thèse défendue par Antonio Casilli, qu'on a le plaisir d'avoir en studio. Antonio, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Antonio.
Alors, Antonio Casilli, vous êtes sociologue, chercheur en sociologie à l'EHESS. Vous enseignez également les Digital Humanities à Télécom Paris-Tech. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce que le Digital Labor?
Alors, qu'est-ce que le Digital Labor? Bon, c'est un changement de paradigme dans notre manière de comprendre qu'est-ce que le travail. Finalement, depuis plusieurs années, on est face à une prise de conscience du fait que toute personne qui est en ligne, tout utilisateur de n'importe quel réseau social est en train de produire de la valeur pour les grandes plateformes numériques. C'est très simple de comprendre si on regarde, par exemple, le fait que la plupart de ces plateformes sont en fait des médias sociaux dans lesquels les contenus sont produits par les utilisateurs. Donc, ces contenus générés par les utilisateurs déjà sont sujets à une forme de monétisation par les entreprises. Donc, vous publiez la photo de votre chaton sur Facebook, Facebook est capable de monétiser.
Ça, c'est du travail.
Ça, c'est du travail dans la mesure où, finalement, derrière, il y a une production de valeur, d'abord. Ensuite, c'est du travail parce que c'est aussi encadré d'un point de vue contractuel, même si ce contrat-là, on l'appelle plutôt les conditions générales d'usage, mais finalement, c'est un contrat qui règle ce qu'on fait avec les contenus que nous publions et avec les données qu'on laisse traîner, pour ainsi dire, donc nos traces numériques. Et pour finir, c'est du travail parce que il est soumis aussi à une forme de mise en chiffre. Donc, c'est mesuré. Et c'est mesuré, par exemple, à travers le nombre de shares, de likes, de partages, d'amis, de followers. Donc, aussi en termes de réputation de la personne qui est le producteur de cette valeur.
D'accord. Donc, principalement, ça va être des tâches appliquées, des micro-tâches effectuées sur les réseaux sociaux. Et est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, le crowdsourcing, est-ce qu'il est classé sous cette aune de digital labor?
Il y a une continuité entre les activités non rémunérées qu'on réalise chaque jour sur les réseaux sociaux et ce qui se passe, par exemple, sur les plateformes de crowdsourcing et surtout ce qu'on appelle les nouvelles plateformes de micro-travail. Alors, je pense, par exemple, à Odesk, à Mechanical Turk, voilà, d'Amazon. Donc, c'est des services dans lesquels, en gros, on est payé quelques centimes pour réaliser quelques clics, pour classer quelques photos ou, par exemple, pour ranger des chansons dans une playlist, des activités qui, normalement, pourraient être réalisées par des intelligences artificielles, sauf que les intelligences artificielles, parfois, ne sont pas vraiment intelligentes et ont besoin d'un petit coup de main de la part des utilisateurs. On appelle cela entraîner les algorithmes. On les entraîne comme on dresse un animal, en gros, d'un certain point de vue.
Ça veut dire qu'après, on n'a plus besoin de l'internaute.
Voilà. Donc,
et l'algorithme arrive le faire tout seul.
D'un certain point de vue, on est en train de préparer notre propre licenciement sur ces plateformes.
C'est magnifique.
C'est une longue histoire. C'est une situation très complexe.
Oui.
Analyser quel est le lien, par exemple, entre ce travail non rémunéré ou micro rémunéré et l'emploi formel. L'emploi formel, c'est-à-dire l'emploi salarié qui a lieu sur un lieu de travail et qui est l'emploi classique qu'on est habitué à connaître, qu'on est habitué aussi à défendre. Alors, la question se pose pour tous les micro-travailleurs, le crowd-travailleur ou alors tous les gens qui sont en train de travailler sans le savoir. Quelle forme de protection? Quelle forme de défense pour leurs droits?
Bien sûr. Et est-ce que aussi c'est pas une question de sécurisation et aussi de vie privée à propos des connexions obligatoires, on est en train de parler, d'évoquer au Parlement de réglementer un peu la frontière entre à la fois vie privée, vie professionnelle. Votre position par rapport à ça, quelle est-elle?
C'est un combat extrêmement difficile parce que la frontière est brouillée. Déjà, par exemple, en sociologie, on cherche même à inventer des nouveaux concepts, des nouvelles notions pour définir la nouvelle vie de tout un chacun. Donc, on appelle par exemple playbor, donc un peu jeu, play, et un peu labor, un peu travail. Le problème est que, en fait, ce type de travail numérique, ce type de digital labor, s'inscrit ou s'insère dans les interstices de notre vie. Si vous y pensez, se réveiller le matin et avant même d'avoir pris le premier café, avoir relevé son mail, avoir fait un petit tour sur Facebook, ben voilà, vous êtes déjà au boulot. Donc la question est que, de fait, par ailleurs, avec les nouveaux traceurs, les nouveaux méthodes, les nouvelles méthodes de quantification de soi, donc de mise en chiffre de soi, de quantified self, bah finalement même le sommeil est chiffré, même le sommeil se transforme dans une activité productive dans la mesure où on produit des données et ces données là sont monétisées et ces données là au fait font en sorte que notre vie travaillée ne ressemble plus à celle de nos parents ou des grands-parents qui connaissaient, idéalement, bien sûr, le travail concentré dans les 8 heures du travail. Nous, on ne fait plus 8 heures de travail, nous faisons 24 heures de travail. Et ces 24 heures de travail, finalement, brouillent complètement les frontières entre ce qu'est l'activité laborieuse et ce qu'est l'activité de loisir. On ne sait jamais si on est en train de s'amuser ou en train de cliquer parce que, d'un certain point de vue, il y a une forme d'injonction ou il y a une forme d'appropriation de quelqu'un qui va finalement capturer cette valeur.
Mais d'ailleurs, il y a une mode...
Donc il faut couper Internet, en fait.
Non. Je suis résolument contre ce type de posture ludite qui voudrait...
Il y a un peu extrême.
Non, voilà. L'idée, c'est plutôt de se réapproprier Internet, de faire en sorte de reconnaître qu'il y a une activité productive et que, d'un certain point de vue, il faut une reconnaissance de cette valeur. Voilà. Le problème est plutôt redistribuer le pouvoir et la valeur dans l'Internet pour faire en sorte de casser, en gros, les grands monopoles qui sont représentés par les grandes firmes, par les Facebook, par les Google, et ainsi de suite. Mais on a des bons exemples en France aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas seulement pour faire de la souveraineté numérique
américaine.
Pour faire du protectionnisme, c'est pas ça le point.
Je pensais, ça me fait penser à cette mode aux États-Unis de la digital detox. Il y a même certains hôtels en France qui proposent des cures de digital detox. Est-ce que vous pensez que ça correspond à une vraie nécessité ou est-ce que c'est encore aujourd'hui gadget et...
C'est plutôt inégalement distribué ce besoin d'avoir une détox. C'est-à-dire que c'est surtout les professions qui sont les grands communicateurs. C'est les gens qui déjà travaillent dans les médias numériques ou alors qui sont des journalistes et qui sont des communicateurs et qui ont besoin à un certain moment de se détacher. Le fait est que la plupart des utilisateurs ne sont pas dans ce cas de figure. La plupart des utilisateurs ne sont pas des communicateurs par profession ou par métier. Au contraire, ils se retrouvent à subir finalement l'injonction à la connexion. Et ça, c'est de plus en plus vrai parce qu'on a arrêté de vivre dans un Internet de publication, dans un Internet dans lequel on publie volontairement des choses, mais on vit de plus en plus dans un Internet de émission, c'est-à-dire dans lequel on émet des données, on laisse passer des données, et ça on le voit par exemple à travers l'Internet des objets ou à travers le fait que toute activité est finalement tracée. Et donc de ce point de vue-là, la digital detox vraiment concerne les gens qui ont au moins un peu de pouvoir encore sur le fait de publier ou de ne pas publier. Alors que la plupart des gens, en ligne de tendance, est en train de s'orienter vers une extraction des données plutôt.
Alors vous parlez d'émetteurs, de finalement on passe des infos. Est-ce à dire que les internautes, on a un peu des hotspots de l'info?
ont des hotspots ou sont des hotspots. Oui, bien sûr. Mais le fait est que l'info en tant que telle est en train de devenir quelque chose de complètement différent. Par exemple, le fait de pouvoir avoir une vision vraiment très très fine, précise de l'activité humaine d'un être humain, d'un individu ou d'un groupe d'individus, et de pouvoir, par exemple, exploiter ça à des fins commerciaux, par exemple pour le revendre à nos banques, pour le revendre à nos assurances, pour le revendre parfois à notre propre employeur, ouvre à des abus possibles et ouvre aussi à un tas de possibilités. La question est que nous sommes des hotspots sur pied, enfin, nous marchons et nous vivons et nous produisons de l'information. Cette information-là est aussi quelque chose qui nous expose à tout un ensemble de risques. Pensez par exemple, et c'est déjà le cas, si vous êtes avec un assureur qui vous impose de, par exemple, avoir un bracelet connecté et de produire constamment ces données. Quel est le risque pour, par exemple, le type de prime qu'il peut vous imposer, le type de discrimination par le prix auquel il vous expose?
Oui, la discrimination par le canapé, en fait. Si je reste sur le canapé, je vais payer plus cher mon assurance vie.
Voilà.
Et voilà, on n'est pas couché. Merci beaucoup, Antonio. C'est passionnant tout ça. Hein.
Mais oui.
Et voilà. On va revenir dans un instant pour la suite de cet atelier avec notre web stratégie. Ça sera la stratégie digitale de Keolis. Et puis juste après, notre passion selon Sanet. À tout de suite, c'est BFM Business et c'est l'atelier.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Notre passion selon Sanet. Dans un instant, les objets connectés physiques sont morts. Ils vont se transformer en objets invisibles. On va en parler avec notre invité, mais dans l'immédiat, c'est notre web stratégie. Et on s'intéresse à la stratégie digitale de Keolis. Et c'est avec vous, Lila Megrawa.
Oui, François. Alors, cette semaine, on va découvrir plutôt la deuxième phase du plan de transformation digitale du groupe Keolis. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Pierre Farandou. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes PDG du groupe Keolis. Laurent Cochère, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur marketing, innovation et services du groupe Keolis. Est-ce que vous pourriez revenir, messieurs, il y a 6 mois, vous aviez annoncé un certain nombre d'initiatives en matière de stratégie digitale. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces initiatives mises en place, où s'en est ? Jean-Pierre ?
Oui, moi je vais revenir sur la stratégie qu'on avait exprimée il y a 6 mois. Cette stratégie, elle est simple, c'est que le digital fait maintenant partie des basiques de notre métier. Notre métier historique, c'est de transporter des gens, hein, dans le cadre d'un service public de transport convenu avec des agglomérations. Donc tous les matins, on fait rouler des services de métro, de bus, de tramway, des trains aussi. Et en fait, les services qui vont avec en matière d'information, de vente à distance, sont complètement partie du métier. Et nous, Keolis, on a décidé donc de se lancer dans la mise au point de solutions et de s'y lancer de manière ouverte avec des tas de partenariats, puisque c'est un écosystème où il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de start-up, et une entreprise comme la nôtre souhaite travailler avec beaucoup de ces petites entreprises qui nous amènent leur savoir-faire et leur agilité.
Laurent Cochère.
Oui, effectivement, ce qu'on cherche à faire dans cette approche, c'est de répondre aux besoins de simplicité des voyageurs. L'objectif, c'est qu'en même temps qu'ils ont leur parcours physique, ils aient un parcours digital qui leur permette de simplifier l'usage du transport public et en général l'usage de la mobilité. On pense que ça passe par trois sujets qui sont finalement leur sujet du quotidien quand ils se déplacent. Le premier sujet, c'est de rechercher son itinéraire et d'avoir l'information en temps réel sur le fonctionnement du réseau de transport et des moyens de mobilité. Le deuxième sujet, c'est de pouvoir acquérir leur titre de transport de façon très simple ou renouveler leur abonnement en début de mois. Et puis le troisième sujet, c'est de pouvoir valider un titre de transport qui serait sur le mobile. Donc on travaille sur ces trois sujets-là et ça fait l'objet de l'annonce d'une application mobile intégrée qui s'appelle Plan Book Ticket. Plan, c'est l'information. Book, c'est l'achat en ligne du titre de transport. Ticket, c'est la validation du titre de transport dématérialisé sur le mobile. Et c'est dans une application unique, parce qu'on pense qu'effectivement les gens, quels que soient finalement leurs besoins, vont pouvoir recourir à une seule application, à l'ensemble de ses fonctionnalités sur leur mobile.
Pour se représenter, cette application Planbook Ticket, elle va être disponible dans combien de villes? Qu'est-ce qu'elle va permettre de faire concrètement?
Alors aujourd'hui, l'application, elle est déployée dans 7 villes. Déjà aujourd'hui, la première ville, c'était la ville de Lille qu'on a déployée au printemps, ensuite Lens, et depuis la rentrée, il y avait Montargis aussi, et depuis la rentrée, Orléans, Bordeaux, Brest, Amiens. Alors cette application aujourd'hui, elle propose d'abord les fonctionnalités d'information, On les complète dès le mois prochain, donc dès le mois d'octobre, notamment à Orléans ainsi qu'à Montargis et à Saint-Malo, avec les fonctionnalités d'achat du titre en ligne. Et ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est effectivement la signature de nos partenariats avec d'une part la compagnie des transports strasbourgeois sur la technologie NFC, la reprise de leur solution de gestion du titre de transport sur le mobile en technologie NFC, et d'autre part la signature d'un partenariat avec une start-up anglaise qui s'appelle Mazabi et qui a développé une solution qui est déjà opérationnelle à Londres sur la gestion du code barre et la lecture très rapide sur un lecteur optique d'un code barre 2D sur lequel il y a votre titre de transport urbain sur votre mobile. Donc ces deux solutions vont être effectivement intégrées à l'ensemble de l'application. Elles sont déjà en fonctionnement soit à Strasbourg, soit à Londres, et donc elles seront intégrées en commercialisation dès maintenant et intégrées pour mise en place au début de l'année prochaine sur les différents réseaux.
Quels sont les résultats de ces premières expérimentations? Vous évoquiez la ville de Strasbourg. Est-ce que les gens sont friands, appétants de ce type de service, Jean-Pierre?
Oui, effectivement. Enfin, d'abord sur l'application de Plan, c'est un vrai succès. On l'a déployé donc dans plusieurs villes, comme l'a dit Laurent, et je pense qu'à Lille, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont téléchargé cette application. Je crois qu'on a dépassé la barre des 100 000. Donc c'est un nombre très important d'usagers qui a téléchargé cette application. Je peux vous dire d'ailleurs que le président de l'agglomération de Lille Métropole est ravi, et il envisage même de faire cette application, l'application de la vie dans l'ensemble de l'agglomération. En ce qui concerne le NFC à Strasbourg, je crois que c'est 7 000 clients qui ont téléchargé, en tout cas, qui utilise cette fonctionnalité NFC. Voilà, donc ça marche, mais sur dès lors qu'on est équipé d'un téléphone NFC, bien évidemment. C'est d'ailleurs pour ça qu'en complément du NFC, on a souhaité être sur les deux grandes technologies qui permettent la dématérialisation des titres, donc le NFC bien sûr, mais aussi le code barre 2D qui fonctionne, d'où ce partenariat avec une start-up innovante britannique.
On parle énormément de Smart City. Est-ce que c'est également dans cette démarche-là que vous vous engagez dans cette voie via la mobilité connectée? La ville de Strasbourg est assez exemplaire sur le sujet. Laurent Cocher.
Oui, je crois qu'effectivement, sur la Smart City, ça, c'est beaucoup de domaines, et notamment le domaine du transport et de la mobilité, qui est un sujet important, évidemment, dans la Smart City, avec peut-être deux dimensions. Une dimension de service aux passagers, et la Planbook Ticket, ça représente cette possibilité d'offrir de nouveaux services et une meilleure simplicité d'usage aux passagers grâce au digital. Puis il y a une deuxième dimension sur laquelle nous travaillons aussi, bien entendu, qui est la dimension d'analyse des données, qui est pas forcément quelque chose en temps réel pour le passager, ça peut l'être, mais qui est aussi une meilleure compréhension de la ville. Et là, on a une tradition qu'on complète maintenant avec les outils technologiques et le big data d'Ankeolis, d'analyser finalement les flux, les besoins de déplacement des gens pour positionner les moyens de transport et aider les autorités organisatrices de transport à définir les réseaux de transport, les moyens de transport qui sont les plus adaptés, qui rendront le meilleur service au quotidien aux citoyens, aux habitants des villes ou aux gens qui sont en passage dans la ville.
Dans cette idée d'utiliser les données pour optimiser les flux de transport, on avait notamment l'exemple d'SNCF qui avait lancé son application Tranquilien, qui permettait aux voyageurs, aux passagers de choisir d'être informés d'un itinéraire selon différents critères. Est-ce que ça pourrait être le chantier à venir pour votre application Planbook Ticket?
C'est largement fait, bien sûr, cette dimension de laisser le client choisir, c'est-à-dire de personnaliser l'application, c'est ça qui est extraordinaire avec le digital, c'est que ça nous permet de passer d'une logique de transport de masse, de transport de foule, à la multitude de transports d'individus, chacun ayant ses caractéristiques et son profil un jour donné. Donc on a par exemple intégré des parcours de marche à pied, et vous savez que la vitesse de marche à pied, elle dépend complètement de votre fatigue, si vous avez une valise, si vous en avez pas, etc. Et donc on peut tout à fait paramétrer en fait ses propres conditions qui vont faire qu'on sera en mesure de choisir le bon déplacement qui convient à votre bon profil au bon moment. Voilà, donc bien évidemment tout ce travail sur les données où le consommateur est lui-même acteur du service qu'on va lui proposer sont d'ores et déjà intégrés dans les applications Planbook Ticket.
Merci beaucoup à tous les deux, on va suivre tout ça, peut-être qu'on va se retrouver dans 6 mois pour parler d'une troisième, quatrième phase. Que sais-je. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci.
Merci Lila. On revient dans un instant. On va parler d'objets connectés pour notre passion selon Sanat et puis après notre World Tour. À tout de suite sur BFM Business.